Libre-échange.
Ravi de vous retrouver, nous sommes sur Assoit dans Libre-échange. Chaque semaine, je reçois pour vous une personnalité du monde économique, un dirigeant d'entreprise, un président de fédération, quelqu'un qui représente un secteur. On fait le tour d'actualité de son activité. Et aujourd'hui, c'est le président de HES Holding Invest, Monsef Bolkhayat. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Ben, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous.
Et on sait que vous êtes un entrepreneur depuis une longue date. Aujourd'hui, l'actualité qu'on a entendue depuis une semaine, c'est que vous êtes en train de faire une restructuration financière de votre groupe. Je voudrais qu'on en profite d'abord pour comprendre quels sont les secteurs dans lesquels vous êtes, en quoi consistent vos activités, et après comprendre quelle est la mécanique qu'il y a derrière cette démarche de levée de fonds et de restructuration financière. Alors quand je dis restructuration financière, pour que ce soit très clair, il s'agit de réorganiser l'ensemble de vos activités pour leur permettre de faire un développement et restructuration dans le cadre d'un appétit, hein, si je peux l'appeler comme ça, par rapport aux activités qui sont les vôtres. Pour commencer, HES Holding Invest est une structure qui chapeaute quelle activité?
Bah, d'abord, HES a été créé en 2005, du temps où j'étais dirigeant, vice-président de Meditel. Et l'histoire est assez intéressante puisque j'étais revenu de Harvard Business School après y avoir passé 4 mois, avec l'idée qui c'était celle de quitter le monde corporate et de me lancer en tant qu'entrepreneur. Donc la décision de me lancer était une décision consciente il y a 15 ans. Et donc j'ai créé cette holding avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, ce qui m'a permis de prendre une première participation dans Dislog à l'époque de 51% grâce à un financement de Tijeri Wafa Bank. Suite à cela, nous avons développé Dislog dans les métiers de la distribution, de la logistique, et nous avons fait de Dislog un grand distributeur, leader des produits de grande consommation. Ce développement dans notre métier nous a aussi permis de réfléchir à de nouveaux concepts. Et le concept le plus intéressant, c'est le concept de full service provider, qui est que sur l'ensemble d'une chaîne de valeur entre une usine et jusqu'au consommateur final, ben, il y a une chaîne de valeur marketing, une chaîne de valeur logistique, une chaîne de valeur commerciale. Et donc on s'est dit, on va se positionner sur chacun des éléments de cette chaîne de valeur. Et donc les universités et les écoles de commerce aiment bien cela. Donc nous avons créé une société dans la distribution, nous avons racheté une société dans le transport, nous avons racheté une société d'entreposage pour créer des warehouses, nous avons lancé une société de marketing direct et de merchandising. Et ensuite, nous avons lancé un groupe de communication, médias et digital qui fait de nous aujourd'hui le seul et unique groupe d'Afrique et du Moyen-Orient qui a ce positionnement de full service provider pour pouvoir offrir des services à toute société de produits de grande consommation sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, justement.
Alors, quand on est full service provider, au sens où on est sur l'ensemble de la chaîne, et on prend aussi des risques. Est-ce qu'il y a un des maillons de la chaîne sur lequel, pour vous, le risque était plus élevé que les autres?
Alors, on prend des risques. Et non seulement on prend des risques, mais il y a des maillons de la chaîne qui ne sont pas rentables. Donc il y a des maillons de la chaîne qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Mais j'ai préféré avoir l'ensemble des maillons de la chaîne pour que l'ensemble soit rentable pour avoir justement ce positionnement de full service provider. Alors je vous donne un exemple. La société Mars, qui fabrique des chocolats un petit peu partout dans le monde et dont le siège régional est à Dubaï, nous a fait confiance et nous a donné l'ensemble de la distribution de ses produits au Maroc dans un concept de full service provider, puisque aujourd'hui nous importons, nous stockons, nous transportons, nous distribuons, nous merchandisons, et nous faisons aussi la publicité pour les produits.
Donc, alors, qu'est-ce qui change dans cette activité par rapport à la manière traditionnelle de faire du commerce au Maroc, qui consiste à dire j'ai la carte Mars, c'est moi qui suis le propriétaire ou concessionnaire de Mars?
En fait, c'est ce qu'on appelle des contrats d'agence. Nous sommes les distributeurs exclusifs de ces marques, de ces produits. Et en fait, c'est des distributeurs internationaux qui ont des marques globales, mondiales. Mmh. Et ils ont besoin d'un distributeur qui puisse faire tout le travail pour eux. Et donc, de plus en plus, avec la globalisation, les clustering fait que les sièges sont maintenant à Dubaï, à Genève ou à Singapour.
Oui, quelque part dans le monde pour une région large.
Voilà. Et donc là, on a un seul interlocuteur qui gère le compte de ces sociétés pour nous. Et à partir de là, on développe le business. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on puisse développer le business et développer les chiffres d'affaires et les parts de marché. Ils veulent que nos coûts soient les coûts les plus faibles possibles. et ils veulent des collaborateurs, des collaboratrices qui puissent avoir la même ADN qu'eux, d'abord parler en anglais avec eux et ensuite avoir ce qu'on appelle la culture des scorecards et la culture des KPIs, les Key Performance Indicators. Et donc ça devient plus.
C'est une culture de la performance qui permet donc pour les auditrices, auditeurs d'Aswat qui nous suivent, dans une logique de performance d'entreprise, d'avoir des indicateurs qui permettent de voir comment on évolue. Aujourd'hui, votre groupe, c'est combien de salariés ?
C'est aujourd'hui 1600 personnes. C'est aujourd'hui 3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Et c'est une progression sur les 15 dernières années qui a été de 23% par an de manière continue.
En moyenne annuelle ?
Oui.
Sur les 15 dernières années.
Une belle performance.
Oui, bien sûr, c'est une très belle performance. Vous voyez qu'il y a encore des opportunités. Vous décidez aujourd'hui de continuer à investir. La logique que vous avez aujourd'hui de dire je restructure financièrement notre société holding va reprendre un certain nombre de parts dans l'ensemble des sociétés que nous avons va vous permettre de mieux développer votre groupe. Quel est l'objectif ?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, quand j'ai commencé, que je suis revenu de HBS, Harvard Business School, j'ai commencé avec un capital de 1 500 000 dirhams, dans lequel je n'avais que 1 million et ma famille a mis 500 000 dirhams. Donc avec ce 1 500 000 dirhams, nous avons levé des financements bancaires pour acheter Dislog. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous avons utilisé beaucoup de leviers financiers. Et ceux qui nous ont sauvés dans notre stratégie de développement, c'est les fonds d'investissement. Mmh. Donc nous avons fait rentrer avec nous un premier fonds d'investissement en 2007, qui est le fonds CNAV 1. Ensuite, en 2011, ce fonds CNAV 1 a décidé de partir parce que les fonds d'investissement, ils ont une durée limitée,
donc il est ressorti pour réaliser lui-même sa plus-value.
Exactement. Donc ensuite, le 28 janvier 2014, le fonds CNAV 2 est re-rentré dans le capital de Dislog. Et ensuite, à la fin de l'année, le fonds BMC Finance de BNP Paribas est aussi rentré dans le capital. On s'est retrouvé avec des fonds d'investissement qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés d'un point de vue gouvernance et qui ont amélioré les fonds propres de nos bilans pour pouvoir repartir pour un round de levée de fonds auprès des banques et pour faire de la croissance. Et c'est grâce aux fonds d'investissement et aux banques que je tiens à remercier et pour leur accompagnement qui m'a permis en tant qu'entrepreneur de réussir à monter ce groupe de 3 milliards de dirhams et de 1600 collaborateurs. Aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle et dans le cadre du financement de notre développement, on s'est lancé dans plusieurs produits industriels pour lancer nos propres marques. Donc 4 usines, une usine d'huile d'olive, une usine de biscuits, une usine de thé et une usine de détergent. Et donc ces 4 projets, plus une plateforme digitale, plus les projets d'expansion que nous avons au niveau logistique et warehousing, font qu'on a besoin d'argent pour pouvoir progresser et continuer le développement. Ce besoin d'argent, nous avons décidé de le mettre au niveau d'une ouverture de capital sur la holding de tête qui est HNS Invest. Et donc, nous levons 24 millions de dollars US, 250 millions de dirhams.
C'est une opération bouclée ou elle est en cours ?
C'est une opération qui est bouclée et dans laquelle nous allons recevoir les fonds au début du mois de juin prochain.
Merci. Je rappelle que l'émission, évidemment, j'ai toujours un invité du côté journalistique qui représente La Vie Éco. C'est Mehdi Moutalib qui est à mes côtés cette semaine. Mehdi, première question.
Vous entretenez une stratégie d'augmentation de vos capacités logistiques. En quoi consiste cette approche et quels sont vos objectifs ?
Alors, dans un premier temps, au niveau logistique, il y a deux éléments fondamentaux pour qu'ils puissent faire de la logistique. Donc, il y a tout ce qui est capacité de transport. Donc, nous avons mis en place un programme d'investissement de 50 semi-remorques à travers notre société Comptoir Service, qui est une filiale de Dislog. Mmh. Et nous avons aussi décidé d'augmenter notre capacité de stockage sur les entrepôts de Building Logistics, qui est aussi une filiale, de 30 000 mètres carrés supplémentaires. Nous avons inauguré...
Qui vous amène à combien ?
Alors justement, nous avons inauguré aujourd'hui l'extension de Bouskoura de 20 000 mètres carrés. On était à 50. Aujourd'hui, on est officiellement à 80 000 mètres carrés. Et nous augmentons de 20 000 mètres carrés en 2019 sur les plateformes de Tanger, Oujda et Nador. Donc à la fin de l'année 2019, groupe Dislog sera à 100 000 mètres carrés. Et donc je pense qu'il y a maintenant Logismed et c'est dans l'air du temps. La logistique devient très à la mode, que ce soit au niveau entreposage, que ce soit au niveau transport.
Alors vos capacités logistiques et transport sont-elles utilisées seulement pour les produits que vous représentez, que vous distribuez?
Non, aujourd'hui, si on voit quelle est la part et le pourcentage du client Dislog au sein de Comptoir Service, il est de 50%. Et nous avons d'autres clients qui représentent les 50% du chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne Building Logistique, Dislog représente 75%. Et nous avons d'autres clients qui pèsent 25%. Ce qui prouve qu'il y a encore un potentiel de développement important sur ce secteur qui est celui de la logistique.
Mehdi Motalib, encore une question sur la question logistique avant de revenir à la production.
Au sujet des plateformes logistiques, les plateformes d'éclatement, quelles sont les principales villes du royaume que vous fournissez et quelles sont les principales plateformes dans lesquelles vous investissez?
Alors aujourd'hui, nous avons 20 entrepôts à travers le Maroc. Ces 20 entrepôts pèsent 70 000 m² de surface de stockage, y compris le programme de 2019. Et nous avons un entrepôt à Casablanca, qui est celui de Bouskoura, qui est la seule et unique plateforme d'éclatement que nous avons. Cette plateforme, aujourd'hui, elle livre l'ensemble des 20 autres entrepôts. Et si nous devions, dans nos plans, nous projeter, dans le cadre de ce qu'on appelle CAP 2025, nous aurons besoin d'une deuxième plateforme d'éclatement qui sera dans la zone industrielle de Kénitra, parce que c'est un point nodal entre la région du nord, Tanger-Tétouan, qui est en train d'exploser en termes de consommation et en termes de volume, et la région est du Maroc avec Meknès Fès ou Jdanatol.
C'est vrai qu'on parle de logistique, de plateforme logistique, de transport, d'éclatement. Et la logistique, on peut la faire pour différents types de produits. Ce qui peut aller, je ne sais pas, de téléphones portables à des ordinateurs en passant par des produits agroalimentaires. Est-ce que vous avez développer une spécialité ou un type de produit sur lequel vous investissez plus?
Nous avons investi jusqu'à présent dans ce qu'on appelle les produits secs. Il y a un deuxième type de logistique qui sont la logistique du froid. Oui. Nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes en train d'analyser pour comprendre comment ça fonctionne. Pour cela, il faudrait avoir un opérateur et un partenaire étranger qui puisse avoir l'expertise. Nous n'y sommes pas encore.
Revenons aux unités industrielles que vous prévoyez dans le cadre de votre plan avec cette levée de fonds. Vous nous disiez des unités industrielles qui touchent le domaine agroalimentaire. Vous les recitiez quelques instants. Vous disiez l'huile,
le biscuit, thé et détergent.
Et détergent. Alors, on est dans quatre domaines différents qui sont des domaines en fait, de consommation quotidienne.
Produits de grande consommation.
De grande consommation.
Complémentaires à notre gamme de produits et de nos clients que nous avons aujourd'hui.
Ce sont des usines qui démarrent de rien du tout. Vous allez construire.
Greenfield, oui.
Et voilà. Et donc, vous allez embaucher combien de gens?
Nous allons embaucher 700 personnes, dont 100 cadres, avec la condition que l'ensemble de nos cadres parlent anglais. Nous avons des partenaires étrangers, des Égyptiens sur la partie biscuits. Tous nos clients, tels que Procter & Gamble, tels que Mars, Kellogg's, ont travaillé avec eux en langue anglaise. Aujourd'hui, je suis stupéfait de voir le débat qui est en train de se poser au niveau de nos politiques sur les langues d'enseignement. Aujourd'hui, je vous le dis, groupe Dislog, la seule condition pour être recruté, ou l'une des conditions sine qua non, c'est de pouvoir parler anglais si on veut être un cadre et qu'on puisse évoluer dans le temps.
On va parler un peu de ces activités. Vous allez créer des marques marocaines. C'est des marques qui existent déjà?
C'est des marques marocaines que nous créons de zéro.
Allez, Mehdi Motalib, encore une question.
Le fait d'investir dans des marques propres, va-t-il vous emmener avec l'exercice de ces nouvelles activités à diminuer vos importations?
Non, dans le sens où en fait nous aujourd'hui travaillons avec des opérateurs et des clients qui ont des usines au Maroc et qui importent aussi des produits. Le Maroc est un pays ouvert au même titre que lui aussi exporte des produits. Et donc en fait nos clients, on est tenu par des engagements de non-compétition avec eux. Et par conséquent, tous les produits propres que l'on lance sont des produits sur des catégories nouvelles. Donc nous n'avons pas de clients concurrents sur les catégories nouvelles que nous avons. Je tiens à préciser que nous distribuons des marques multinationales et que 95% de notre chiffre d'affaires, c'est des multinationales. Et que nous sommes très fiers de distribuer deux belles marques marocaines dont je suis fier. Nous avons fait partie, en partie, un petit peu de leur succès. C'est les marques d'Harry Kouspat et Aïcha. Mais ça ferait partie de notre business qui est celui de développer des marques. Et donc aujourd'hui, il y a des très très belles marques marocaines qu'il faut continuer à développer.
Et il y a encore de la place pour des marques marocaines malgré la globalisation des marques?
Oui, il y a de la place pour des marques marocaines à condition que le marché marocain puisse grandir. Le fait qu'on puisse ouvrir nos frontières et qu'on puisse grandir soit au sein de la CDAO, soit au sein d'un marché marocain, algérien, tunisien est une condition sine qua non pour pouvoir imposer des marques qui puissent être compétitives.
Est-ce que le Made in Morocco a des avantages selon vous?
Bon, le Maroc est un pays qui a une image. Je pense que le Maroc a besoin de ce qu'on appelle un brand manager. Et ce brand manager, à mon avis, peut améliorer l'image de marque du Made in Morocco. Donc il y a encore du boulot à faire, mais je suis très positif et très fier de ma marocanité et de la marocanité de nos marques.
Je voudrais que nous évoquions l'appétit que vous pourriez avoir pour l'international, puisqu'on parle du Made in Morocco et évidemment des marques que vous soutenez marocaines qui se développent, mais aussi des marques que vous êtes en train de créer dans ces quatre secteurs de grande consommation. Est-ce que demain, ces marques, on pourrait les trouver quelque part ailleurs?
Alors, on a fait un boulot tellement intéressant et positif au Maroc avec nos partenaires étrangers. Par exemple, en 2017, nous avons été élus meilleurs distributeurs de la région Asie, Moyen-Orient, pour Procter & Gamble sur l'ensemble de la région Inde, Moyen-Orient, Afrique. Nous avons été élus en 2018 meilleur distributeur face de Bersdorf pour toute la région Moyen-Orient et Afrique. Et donc aujourd'hui, c'est ces partenaires qui nous demandent de partir avec eux. Donc je pars après-demain, donc le 11 avril, à Singapour pour négocier un deal qui est de rentrer dans le capital du distributeur de Procter à Singapour. Donc j'annonce aujourd'hui sur...
Singapour, c'est loin de l'Afrique.
Oui, mais je suis aujourd'hui clair sur le fait qu'en Afrique, on puisse y aller quand on vend du service. C'est facile de vendre du service quand on est une banque, une assurance, un opérateur télécom ou même un réseau de communication et de médias. D'ailleurs, mon groupe WB aujourd'hui opère dans 7 pays africains et nous sommes africains au niveau des services. Par contre, au niveau de tout ce qui est flux de marchandises, il est impossible, tant qu'il n'y a pas eu d'accord de libre-échange ou que le Maroc n'ait pas intégré la CEDEAO, qu'on puisse y aller. Et par conséquent, nous avons préféré d'aller en Asie, et l'Asie du Sud particulièrement, avec Singapour comme base.
On va conclure cette émission. J'aimerais vous poser une dernière question sur les qualités des femmes et des hommes qui vous entourent. 1600 collaborateurs, avoir une activité comme ça, prendre du temps pour avoir des engagements politiques. Comment fonctionne un dirigeant d'entreprise dans le choix des femmes et des hommes qui l'entourent?
J'ai une équipe qui est juste extraordinaire, je peux le dire. Je suis conscient et je suis fier de mon équipe. C'est peut-être l'un des meilleurs comex de Casablanca. C'est des gens qui sont engagés. Et je pense que si notre groupe a réussi, c'est grâce à eux et grâce à leur mobilisation et leur motivation. Maintenant, je le dis de manière très claire, il y a des conditions sine qua non au-delà des compétences, des valeurs, des principes. Les langues deviennent de plus en plus importantes. Et chez nous, tout le monde parle anglais. Et je suis encore une fois étonné de voir ce débat politique qui nous baisse vers le bas, au lieu de se dire que le Marocain a une capacité extraordinaire à être polyglotte et qu'il faut qu'on apprenne les langues. Aujourd'hui, on est sur un débat d'un autre siècle.
C'est votre regard d'entrepreneur ou d'homme politique ou les deux
les
en
deux,
synthèse?
Les deux en synthèse. Voilà. Mais sachez que j'ai été entrepreneur avant d'être un homme politique.
Oui, bien sûr, mais sauf que le grand public, évidemment, connaît Moussa Boulkhayat.
Et qu'aujourd'hui, je préfère être l'entrepreneur que l'homme politique.
Voilà, merci beaucoup Moussa Boulkhayat. Vous êtes président de HES Holding Invest et vous nous avez partagé avec nous, nos auditeurs, évidemment, la stratégie de développement de votre groupe. Mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. C'est sur Atouat, vous savez où ça se passe. C'est en tout cas pour ma part un grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.